votre radio. Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
J'assistais à des congrès médicaux. J'entendais des jeunes médecins se lever debout et dire « Arrêtez de nous donner des augmentations de rémunération parce qu'on va travailler moins. »
Monsieur le Président, le ministre de la Santé a soif de la CAQ. Il sera rassasié. Avec le mode de rémunération à l'AC, les médecins facturent le plus possible et ça au détriment de l'accessibilité des patients.
J'espère que jamais que la population du Québec va s'abreuver au calice de la CAQ de peur d'être empoisonnée.
Ça me fait un peu de peine parce que s'il avait accepté ma proposition de démissionner plusieurs mois, il n'aurait pas apporté l'échec total des mesures dans le domaine de la santé.
Les chefs Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Ben c'est ça, c'est notre table ronde politique qui commence maintenant. Puis comme vous l'aurez noté, la santé était au cœur des débats ce matin à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est la suite de cette nouvelle donc qui est parue dans le Journal de Montréal à l'effet que tout près de 50% de nos médecins de famille travaillent la semaine de 4 jours. Et puis, évidemment, ça a fait réagir à l'Assemblée nationale. Oui, 4 jours et moins. En effet, parce que dans certains cas, c'est plus près de 3 que de 4. Antoine Robitaille.
Bonjour. Mais bonjour!
Bonjour, Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Et notre fidèle compère, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour,
bonjour,
mon cher.
Bonjour, dis le wawaron.
Oui, voilà. Dis le wawaron. Oui, c'est cela, c'est très sympathique. On sait, d'ailleurs, il faudra décoder à un moment donné ce qu'il dit, ce wawaron, dans son message.
C'est pas clair.
Constamment.
Ça va prendre une wawaron.
Oui, je sais. Tu en as une à nous présenter?
Peut-être.
Ah, ouh!
Vite! Étant un crapaud, j'ai des cousins wawaron.
Oui. Ben écoute...
C'est pour ça que ma wawaron est moins contente d'entendre ça.
Ah, oui.
Non, commence pas à me présenter du monde.
OK, correct.
Bon, alors, parlons donc... alors, vous avez entendu donc les 4 extraits. Hein, c'était Amir Kadir, hein, j'y vais à rebours. Amir Kadir, juste avant Gaétan Barrette. Juste avant François Paradis de la CAQ et au tout début Diane Lamarre, donc la députée du Parti québécois. Et donc la santé, mon cher.
Ah oui, puis la santé, c'est quand même le talon d'Achille de ce gouvernement de médecins. Donc, face à une nouvelle comme celle-là, qui est vraiment troublante et qui nous amène à faire des conclusions sur... à tirer des conclusions sur l'effet réel des réformes Barrette. Hein, on sait que depuis 2014, on est bouleversé par la loi 10, la loi 20, la loi 130 et toutes ces lois-là qui visaient justement à donner plus d'accès, à faire en sorte que les médecins accueillent davantage les patients québécois, parce que c'est la grande frustration que souvent quand on a accès au système de santé, ben on est content, mais la frustration, c'est le manque d'accès et toutes les réformes Barrette, mais je dirais aussi toute la carrière de M. Barrette est basée là-dessus. Puis dans son ancienne vie, il nous disait faut les payer plus pour qu'ils travaillent plus. Or, on les paye plus puis ils travaillent moins. Mais et enfin, c'est une des conclusions.
Je sais pas si
là, on parle des médecins omnipraticiens, donc des médecins de famille.
Mais je veux juste te dire, t'as-tu entendu le Dr Landry dans la première heure?
Non.
OK, bon. Lui est venu en studio et il est venu nous dire que faut faire attention avec les statistiques. D'abord, il attaque très durement Barrette. Il dit que c'est un spin politique, ces chiffres-là, qu'ils ne disent pas la vérité. Que de parler des journées travaillées, ce n'est pas correct parce que c'est bien beau de parler des journées, mais il faut voir combien d'heures sont travaillées à l'intérieur de la journée, première chose. Deuxième chose, il dit...
Y a-tu parlé de la facturation?
Oui, justement, il a dit quand je fais de la facturation, je suis pas payé pour ça. C'est pas calculé dans les heures travaillées. Quand je gère ma clinique, disait-il, c'est pas compté non plus. C'est pas considéré comme des heures travaillées par le ministère de la Santé. Donc, il apportait un bémol à ces statistiques, Antoine. Je veux, en toute, en toute équité, le mettre sur la table.
Mais moi, là, je vais te répondre statistique par statistique.
Oh.
Et j'ai un wawaron à côté de moi.
Ah oui, ça, c'est vrai, il est bon là-dedans.
Qui est un expert en chiffres.
Ouais.
Et qui a justement... des chiffres sur la facturation. Est-ce que les médecins s'occupent de leur facturation? Et quel pourcentage des médecins s'occupent réellement de leur facturation? Je passe la rondelle à mon ami.
Ça s'appelle une sa palette.
Passe sa palette.
Ben, oui, c'est mais que, c'est parce qu'il y a des bons chiffres.
C'est que je travaille sur le sujet depuis maintenant quelques semaines, donc j'ai demandé les chiffres à la RAMQ, ne sachant pas, moi, que ça allait sortir dans le Journal de Montréal. Mais je les ai. Alors, au Québec, il y a 3 % des médecins qui font leur propre facturation.
3 %
50 % du total de la facturation au Québec, donc par la RAMQ, est fait par des agences privées, donc des firmes que les médecins payent à même un certain pourcentage. 46 % sont faits par des employés du secteur public dans un hôpital ou une clinique qui utilisent un logiciel. Donc, ce n'est pas les médecins. Ils refilent ça à quelqu'un de l'hôpital ou de leur clinique qui utilise un logiciel de la RAMQ. Donc, les deux ensemble, ça fait 96 % Il y a 1 % qui fait sa facturation sur Internet parce que c'est plus rapide et 3 % qui font leur vraie facturation là où là, ils épluchent des papiers puis ils font leur... Parce que les lignes de code sont tellement maintenant volumineuses, oui. Difficile de s'y retrouver.
Les codes de l'acte, des actes.
Il y a tellement d'actes différents avec des contextes différents, comment les utiliser, que les médecins ne s'y retrouvent plus. Donc, ils donnent ça à des agences ou ils donnent ça à des employés qui ont des logiciels spécialisés. Ils ne font presque plus leur propre facturation. Ça ne veut pas dire que la gestion de leur clinique pour autre chose ne prend pas de leur temps. Tu sais, j'imagine les horaires de leur...
C'est comme il me donnait l'exemple, il disait, j'essaie d'attirer une femme médecin à Sainte-Agathe, je pense qu'il est, le docteur Landry. Il dit, ben là, j'ai pris une heure hier pour la rencontrer puis essayer de la convaincre. Ben, il disait, aux yeux de la RAMQ puis du ministère de la Santé, j'ai pas travaillé pendant cette heure-là. Mais il dit, j'ai travaillé, puis j'ai travaillé pas juste pour moi, j'ai travaillé pour la population.
C'est bien de le souligner.
Bon. Alors donc...
Mais on est en droit de poser des questions quand même.
Absolument.
Face à ces chiffres-là, parce que, tu sais, on a tellement investi dans les médecins dans les dernières années.
Ben
et là, tu as raison de dire qu'il y a une certaine rhétorique politique de la part du ministre de la Santé. Et ce matin, il n'est pas allé avec le dos de... C'est quoi, non? Le dos de la main morte.
C'est ça.
Ça, c'est un péroniste.
Ça, c'est Jean Perron.
Le dos de la cuillère.
À force de rire des péronistes, je te jure.
Tu es en train de les adopter.
Oui, je te dis. J'ai déjà dit entre l'arbre et l'Écosse.
OK.
Non, mais sérieusement, il a dit... Si les médecins travaillaient 5 jours, il n'y aurait pas de problème d'accès au Québec. Donc, il a vraiment mis ça sur le dos des médecins. Il a rappelé aussi que les médecins s'étaient engagés à prendre en charge 85 % de la population avant le 31 décembre 2017.
Et là, il manque, pour atteindre 85
%, on est à 79,54.
Il faudrait qu'il y ait 300 000 Québécois de plus.
Exactement.
Qui est un médecin de famille.
Puis, ils ont eu quand même droit à la grande inscription. Donc, tu sais, lui-même a donné des signes d'impatience, là, Gaétan Barrette, aujourd'hui. Alors, écoute, en chambre, là, il y a eu plein de questions là-dessus. Mmh. Et ce qui est intéressant, je te dis que j'aime les péronismes et les lapsus. Oui. Diane Lamarre en a fait tout un. Et c'est un lapsus politique, ça j'aime ça. Tu sais, comme Tony Tomassi qui avait dit le Parti québécois, c'est le parti des familles. Puis là, il s'était repris. Puis il avait dit
J'étais en chambre. Jean-Marc Fournier s'est élevé sur une question de règlement et il a dit je demande aux députés de retirer ses paroles.
Son propre député,
Oui. C'est vraiment drôle. Il dit j'ai induit la chambre en erreur. Tony Tomassi avait dit ça. Mais là, Diane Lamarre, écoutons ce qu'elle a dit.
Le ministre a clairement échoué à mettre son pouvoir au service des patients, M. le Président. Il a perdu le contrôle pendant que la CAQ, elle, veut prioriser la santé. Elle veut prioriser la santé.
Oui.
Alors, c'était un beau lapsus.
Très bien.
Donc, c'est le premier sujet qui a vraiment monopolisé la période de questions. Le deuxième sujet, c'est le projet de loi sur l'accès à l'information. Enfin, nous l'avons.
Mais
il sera sûrement pas adopté.
Mais il ne peut pas être adopté.
Non, ils ont
dépassé le délai.
Exactement.
Mais les partis d'opposition ont permis le dépôt.
Oui.
Parce qu'hier, tu disais, c'est pas sûr qu'ils vont même permettre le dépôt.
Mais sais-tu quoi? Ils l'ont accusé d'avoir commis un outrage au Parlement. Pourquoi? Parce que le projet de loi a été distribué avant.
Avant qu'il soit déposé au Parlement.
Une erreur de débutant. Kathleen Veil, elle s'est levée en chambre, elle a dit « Je suis parlementaire depuis 9 ans, j'ai toujours été très rigoureuse, mais tout à l'heure, juste avant d'entrer en onde, j'ai parlé à une de ses porte-paroles et je pense qu'elle a fait aussi des points de presse là-dessus. Elle s'excuse. Elle a fait une erreur dite de bonne foi. Et que
la ministre Veil là, s'excuse?
La ministre Veil s'est excusée, effectivement. C'était pas son intention. Donc, tu sais, outrage au Parlement, il faut que tu démontes une intention malveillante. Hein? Et là, il n'y avait pas d'intention malveillante. Moi, j'ai l'impression que ça va mourir dans l'œuf, mais je te dis, Pascal Bérubé était, c'est le leader parlementaire péquiste,
oui.
était en furie tout à l'heure. Il a dit que c'est une situation très grave dans le parlementarisme. On ne dépose pas comme ça des projets de loi après les avoir donnés, notamment à la presse parlementaire, parce que c'est ça qui est arrivé.
Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Là?
J'ai hâte de voir.
Il y a eu une plainte officielle.
Ah,
donc,
oui, hein, absolument. De... Question de privilège.
Soulevé par Bérubé.
Exactement. Donc, il, théoriquement, il devrait y avoir comme une enquête. Là.
Bon, OK. C'est
pour ce qui est du projet de loi, moi, écoute, j'ai pas eu le temps de tout le regarder.
Ouais.
J'ai eu des échos de certaines personnes qui connaissent bien ça. Je vais te lire. C'est terrible. Ils ouvrent la porte à des délais infinis. Ça va être épouvantable. Alors, je sais pas. Écoutez, on en est là.
Ben, je veux dire,
on en est là. On va voir. Le débat va se faire.
Ben oui,
je pense que c'est quand même une pièce au dossier.
Ouais.
Est-ce que le prochain gouvernement va reprendre ça, va le modifier? Mais espérons que le prochain gouvernement, justement, fera une vraie réforme et qu'on aura enfin plus de transparence au Québec.
Mais c'est toujours la même affaire. Quand les partis sont dans l'opposition, ils sont vertueux, ça prend de la transparence, de l'accès à l'information. Ils sont plus... c'est à qui va pas réformer la loi d'accès, la rendre la plus ouverte et transparente. Et là, ils arrivent au pouvoir. Ils n'aiment pas trop ça, gérer des crises.
Exactement. Mais
là, ils ferment les écoutilles, mais parfois, espèrent que ça passe.
T'as un petit progrès, puis là, t'as un cran d'arrêt, tu peux pas baisser plus
mais
bas.
À Ottawa, c'est la même affaire. Justin Trudeau avait promis, pas comme Couillard, Couillard avait utilisé des mots très durs, là, le gouvernement le plus transparent de l'histoire.
De l'histoire du Québec.
Bon, Justin Trudeau avait lui aussi une plateforme.
On allait
là,
voir
là,
à travers tellement qu'il était transparent.
Écoute, là, Justin Trudeau parlait de transparence là, comme s'il venait de l'inventer. Là. C'était quelque chose de primordial. Puis il vient de déposer lui aussi une loi pour réformer l'accès à l'information. Elle est à peu près aussi critiquée que celle de Kathleen Verre à Québec. Là. Que...
Mais je pense que l'administratif a beaucoup de réticence. Hein? Bernard, toi qui as été dans cette position-là...
La machine n'aime pas ça qu'on la scrute.
Au bout, moi, j'avais fait une... J'étais ministre responsable de l'accès pendant les 18 mois. Bon, mais si je te dirais, en 18 mois, là, réformer l'accès, c'est vraiment... Réformer la loi sur l'accès, c'est un travail pour un gouvernement majoritaire. Parce que d'abord, c'est très complexe. Il y a beaucoup de résistance. Il faut que tu convainques tes confrères, consoeurs.
Ah ben oui, en plus.
Puis moi, j'avais parti une couple de projets pilotes là, pour donner justement plus d'informations volontaires. Puis je vais dire, c'était pas simple. Mais je me rappelle, à un moment donné, je m'étais adressé à un parterre de hauts fonctionnaires. Sur la loi d'accès.
Ah oui?
Et oui. Puis là, j'avais dit... Puis là, j'avais encore espoir là, qu'éventuellement, je pourrais peut-être déposer quelque chose. Quitte à déposer une coupe d'affaires le plus ciblée. Puis je leur avais dit, là, le temps est venu de changer la culture de notre État.
Ils n'ont pas dû aimer
ça. Ils t'ont regardé, ils ont dit, t'es minoritaire, mon homme.
D'une part, puis je peux pas dire que j'ai été très chaudement applaudi. Il n'y a pas eu beaucoup de fonctionnaires après le discours qui sont venus me mettre la main sur l'épaule. Excellent, on est avec vous. Ils ont tout sacré le camp.
Ah ouais.
J'ai regardé ma gang, je disais,
ça
n'a pas été bien reçu. Alors voilà. On va s'arrêter, puis au retour, on va faire un petit détour par l'Ouest canadien pour aller voir un petit peu ce qui se passe.
Pas Kinder Surprise!
La ressource pétrolière, oui, c'est ça. Il y a des développements avec Kinder Surprise. T'es en train de me mêler, toi. Kinder Morgan, hein, tout de suite. OK, on continue avec Antoine et Alec. Alors, Alec, parle-nous un petit peu des derniers développements dans le dossier Kinder Morgan, le fameux pipeline Trans Mountain.
Oui, parce que le centre de gravité de la politique canadienne, mon cher, il est dans l'Ouest actuellement.
Oui.
Parce que hier, l'Alberta a voté officiellement son projet de loi, son fameux projet de loi pour contrôler le flux de pétrole qu'ils exportent de leur province, dans le but... pas très subtil, éventuellement, de pouvoir diminuer la quantité de pétrole qu'ils envoient en Colombie-Britannique. Parce que la chicane est prise autour de Kinder Morgan, le fameux pipeline de 7,4 milliards, Trans Mountain. À l'Alberta, officiellement, maintenant, entre les mains, une législation qui lui permet de diminuer le pétrole qu'ils exportent à la Colombie-Britannique. Ce qui, évidemment, ferait monter les prix si ça se produit. En mesure de représailles, parce que du côté de la Colombie-Britannique, on veut... tester devant les tribunaux leurs compétences, à savoir s'ils peuvent, oui ou non, exiger davantage de réglementation, de permis environnementaux à ceux qui transportent du pétrole sur leur territoire. Et l'Alberta dit, bien ça, c'est un prétexte pour, dans le fond, empêcher le pipeline de voir le jour. Donc, je te fais entendre un court extrait de Rachel Notley hier qui était très fière de pouvoir dire qu'elle vote ce projet de loi.
With the price differential on our oil taking billions of dollars out of our economy, Alberta has the right to act in the public interest to reduce the cost to the treasury and the economy. Bill 12 gives us that power. And with the BC government seeking to limit what energy products can flow across provincial borders, Alberta has the right to make that decision for ourselves.
Bon, on n'en est pas là, mais on s'est donné les outils législatifs pour que la guerre, lorsqu'elle va être déclarée du côté de l'Alberta, on puisse y répondre. Autre front, c'est celui qui a ouvert hier, je t'en ai parlé vite, Bill Morneau, ministre fédéral des Finances, qui a dit qu'il va indemniser Kinder Morgan ou tout autre promoteur qui investirait dans ce projet-là pour compenser pour les délais, justement parce que la Colombie-Britannique va devant les tribunaux pour tester sa compétence en matière d'environnement. On n'a pas les montants, on n'a pas le mécanisme, mais c'est ce qu'on a annoncé. Et la réponse a été cinglante en Colombie-Britannique hier. Le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, le George Heyman, a dit « Morneau est plus préoccupé par les risques financiers d'une grande entreprise du Texas que par le risque que pose une fuite de pétrole sur nos côtes. »
Ouh!
Et ça
s'appelle...
C'est ça.
Et ça rebondit en chambre, hein?
Là où ça fait mal.
Attends, juste avant d'aller à Québec, je voulais juste terminer en disant que John Horgan, qui est le premier ministre de la Colombie-Britannique, lui a dit, écoutez, nous, on est dans nos droits d'essayer de voir jusqu'où on peut aller pour exiger des nouveaux permis à ceux qui transportent du pétrole sur notre territoire, leur exiger des garanties en cas de déversement. On n'a pas à être blâmé pour tous les autres échecs en matière d'exportation du pétrole au Canada. Et là, il dit Northern Gateway, qui est un autre projet qui n'a pas vu le jour, Energy S, qui a été abandonné. Mmh. Évidemment, eux, la pression est très forte parce que c'est un peu le dernier projet de pipeline qui peut exporter du pétrole vers les marchés internationaux et avoir un meilleur
prix. Désenclaver l'Alberta.
C'est ça. Mais lui, il dit, j'ai pas à payer pour ça, je te fais entendre John Horgan.
Failure of Energy East. He should look at the failure of Keystone and a whole host of other projects. I'm doing what I said I would do. I'm defending the interests of British Columbia. I don't know what the future holds. Mr. Morneau will do what he wants to do. And I suggest the Prime Minister called me to Ottawa coming on a month ago now. If they have a plan, they should tell Canadians what it is.
Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aplomb, Horgan.
Oui, il y a beaucoup d'aplomb. Et n'oublie pas, il est en gouvernement minoritaire, supporté par le Parti vert, ce qui lui cause aussi une certaine fragilité. Et il s'en va en élection, lui, avant les autres. Ce qui fait qu'il y a toujours un petit côté électoral dans ce sujet. Mais c'est pas inintéressant. Tu disais qu'à Québec, ça avait rebondi, Antoine?
Ah oui, il y a Nicolas Marceau du Parti québécois qui a posé des questions là-dessus. Il a dit, est-ce que, finalement, l'argent des Québécois va permettre de financer un projet dans l'Ouest? Parce que finalement, nos taxes et nos impôts vont servir là, là-dedans.
Si Morneau met de l'argent
là-dedans.
Marceau
a dit, s'il y a un seul dollar qui vient des poches des Québécois pour financer ce projet-là, c'est inacceptable. C'est pas compliqué, c'est inacceptable. Puis Jean-Marc Fournier disait, on n'a pas les détails encore. Marceau est revenu à la charge. Non, c'est le principe qui est inacceptable. On peut écouter un extrait de leurs échanges.
La Colombie-Britannique ne veut pas de ce pipeline-là. Ne veut pas qu'il passe sur son territoire. Si vous voulez véritablement défendre les intérêts d'une province à empêcher les pipelines à passer sur son territoire, vous devez dire que le principe de financer ce projet-là par notre argent est inacceptable.
La question fondamentale, le principe fondamental sur lequel je crois qu'on peut convenir ce matin entre nous, lorsque nous sommes dans des matières de pipelines, d'aérodromes ou autres de ce type, les lois provinciales doivent s'appliquer. Le gouvernement fédéral ne peut pas donner une indication aux promoteurs que les lois des provinces ne s'appliquent pas.
Bon. OK. Voilà. Et pour ce qui est des aérodromes, je comprends pas parce qu'on a construit deux, je pense, au Québec, en ignorant complètement les lois québécoises,
notamment sur le zonage.
Ben oui, exactement.
Étrange, en effet.
Je sais que c'est sa position de principe, mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas fait grand-chose pour la faire respecter.
Bon, là, Antoine, je veux que tu nous parles de cet engagement de Philippe Couillard ce matin devant le Congrès de l'Union des municipalités du Québec de leur transférer un point de TVQ. Ça, c'est au-dessus d'un milliard.
1,3 milliard qui serait transféré dans les coffres.
Ça, c'est le gouvernement.
Évidemment, c'est les assises là, de l'UMQ. Ouais. C'est à Gatineau. Et il a prononcé un discours. Il a dit la fiscalité municipale a besoin d'un électrochoc. Il s'est engagé au paiement à 100% des enlieux de taxes aussi. C'est une revendication assez ancienne de l'UMQ. Mais justement, ce point de TVQ-là, on n'a pas beaucoup de détails. Est-ce que ça voudrait dire que... Est-ce que ça serait accompagné d'une diminution des transferts qui proviennent du ministère des Affaires municipales? Donc, un peu comme on a discuté, Alec et moi, hors d'onde tout à l'heure, est-ce que le gouvernement va donner d'une main pour aller retirer de l'autre?
Mais c'est clair. Sinon, c'est une augmentation du
fardeau fiscal. Sinon, c'est vraiment une augmentation, effectivement, puis une perte, ou encore, un manque à gagner pour le gouvernement du Québec.
Et alors, j'allais dire, ça, c'est le gouvernement libéral qui dit que Legault n'a pas les moyens d'offrir une baisse de taxes scolaires de 700 millions
Oui, c'est un bon
supplémentaire
point,
à celle de 700 que les libéraux proposent. Ouais. Il dit, il va de l'avant avec le 700 millions, il mène aux finances dans le trouble, mais eux, par ailleurs, disent qu'ils ont les moyens de transférer 1,3 milliard aux municipalités.
Ça a bien l'air. On peut écouter d'ailleurs M. Couillard qui s'est un peu expliqué là-dessus.
Je pense que l'aspect fondamental, le plus important, ou je pourrais me dire, le prochain virage historique auquel on convie le milieu municipal, c'est une réforme véritable et non pas marginale de la fiscalité municipale. Ça devient de l'argent neuf. En France, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont transféré un point de TVA à ce qu'ils appellent là-bas les collectivités locales. La première année, c'est de l'argent qu'on consolide là-dedans, mais chaque année, ça augmente. Ce qui est très différent des marges habituelles ou des programmes habituels du gouvernement, parce qu'il y a une augmentation naturelle et automatique de l'enveloppe, de la valeur d'un point de TVQ, et on fait autre chose parallèlement.
Oui, un point de TVQ augmente au fur et à mesure où l'économie croît. Ça, je comprends ça. Mais si tu... Regarde, c'est pas compliqué. Si le Québec collecte un point de pourcentage de moins sur la TVQ à ses fins propres, puis qu'il donne aux municipalités... C'est un manque à gagner pour les coffres de...
Je trouve qu'on est dans la logique...
Hein?
C'est pour ça qu'il va arriver.
Qu'est-ce qui va arriver?
Il va tout simplement diminuer les transferts qu'ils font aux municipalités de l'équivalent. Puis ce qu'ils vont dire, c'est que le pourcentage...
C'est plus prévisible.
C'est le point de TVQ plus prévisible. Et comme c'est une espèce d'ascension naturelle, puisque les gens consomment plus d'une fois, d'une année à l'autre, bien, les villes vont avoir quelque chose de plus stable pour faire leur budget. Au lieu de faire une espèce de pacte fiscal avec les municipalités, là, renouvelable aux 3-4 ans, ils disent, bon, ben on va régler ça, on va arrêter de vous transférer de l'argent à la pièce, puis on va vous donner un point de TVQ. En bout de piste, ça va probablement être un peu plus neutre, je pense, pour le gouvernement. Moi, je ne les vois pas se priver de 1,3 milliard.
Ben non.
Jean-François Lisée n'est pas d'accord. D'ailleurs, on peut écouter le chef péquiste.
On va trouver une autre façon de faire augmenter vos revenus, mais je me vois pas dire aux écoles du Québec, non, 50% sont vétustes. Savez-vous, on ne va pas les réparer tout de suite dans toutes les régions et toutes les villes parce que je viens de donner cet argent-là au gouvernement municipal.
OK.
D'ailleurs, il y a eu une motion là-dessus intéressante qui disait tant que toutes les écoles du Québec qui ont besoin de rénovation ne sont pas rénovées, il ne faut pas baisser les taxes municipales. C'est le Parti québécois qui a proposé ça. Et il a été appuyé par Québec solidaire et les indépendants, mais le gouvernement a refusé cette motion.
Hein? Oui.
On y a eu un vote nominal.
Oui, par appel nominal. Oui,
par appel nominal.
On se lève les uns après les autres. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. À demain.
Mm-hmm. Au revoir, à demain.
Et on s'en va avec Loïc Tassé tout de suite après la pause. Je vous rappelle qu'on aura la maman de Françoise Abanda à la fin de cette deuxième heure-là, donc vers 13h45 à peu près.